les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Aujourd'hui, les mots du protestantisme vous proposent, en compagnie de Claudette Marquet, un échange autour du mot protestantisme et autour du mot protestant. Claudette Marquet, vous êtes pasteur de l'Église réformée de France. Vous avez dirigé pendant 14 ans, de 1990 à 2004, le service télévision de la Fédération protestante de France, c'est-à-dire ses émissions intitulées « Présence protestante » qui sont diffusées sur France 2 le dimanche matin. Claudette Marquet, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, une question religieusement incorrecte que j'envoie au pasteur que vous êtes. Le protestantisme est-il une religion ?
Ah, alors je vais faire une réponse un peu paradoxale, parce que, en fait, le protestantisme n'est jamais qu'une des branches du christianisme, hein, le catholicisme, orthodoxie, protestantisme. À ce titre, on pourrait dire, en effet, c'est une branche de la religion chrétienne. Mais les protestants se méfient un peu de la religion. Pour eux, la religion a une certaine connotation négative. La religion, finalement, c'est un peu la manière commode de vivre ou de se référer à une divinité. Le protestant insistera davantage sur la foi. Ce qui est important, c'est la foi. La religion, ce sont les habits de la foi.
Alors, le protestantisme, peut-on dire qu'il regroupe l'ensemble des courants religieux chrétiens, tous issus du catholicisme, qui prennent naissance en Europe lors de la Réforme sous l'impulsion de théologiens tels que Luther, tels que Calvin, Zwingli, etc. Comment, pourquoi, quelles sont les sources de cette création du protestantisme ?
Oui, le protestantisme, c'est un terme générique. Et aujourd'hui, notre siècle 2008, on peut dire que le protestantisme est extrêmement divers. Je dirais même qu'il y a des dizaines de courants protestants qui se réfèrent au mot protestant. Mais historiquement, le protestantisme, le mot, est né dans des circonstances bien précises. On était en Europe, en Allemagne, on était même à Spire. Il y avait une réunion convoquée par l'empereur Charles Quint qui souhaitait, lui, c'était en 1529, souhaitait lui apporter la paix religieuse dans son empire. Et pour lui, la paix religieuse, c'était donner quand même le dernier mot à ce qu'on appelait le catholicisme et qui était la religion dominante à l'époque, bien sûr. Et il se trouve que des princes et des évêques allemands ont protesté. Et d'ailleurs, si vous permettez, je vais lire en traduction française leurs mots exacts. Ils disaient « Nous protestons devant Dieu, notre unique créateur et conservateur, que nous ne consentons ni n'adhérons en aucune manière aux idées qui sont proposées dans ce traité que nous allons signer, car il est contraire à Dieu et à sa sainte parole. Nous protestons. » Alors, voilà, depuis ce temps-là, le mot était né, et c'est vrai qu'on peut dire que protestant a deux faces. C'est protester contre, protestons contre cet édit qu'on veut nous imposer, mais par ailleurs, nous protestons de notre foi. Donc, il y a le côté positif de cette affirmation. Protestant, et bien sûr, de fil en aiguille, c'est devenu protestantisme, c'est-à-dire le courant de pensée se rattachant aux idées de Luther au XVIe siècle.
Alors donc, tout un courant de protestation contre un fait historique dont vous venez de nous rappeler les faits. Mais alors, courant de protestation qui s'est perpétué, pourquoi, comment ? Pourquoi et contre quoi et en faveur de quoi a-t-on protesté ?
Alors, la protestation immédiate était une protestation contre, au fond, le fait que l'on voulait imposer une religion aux princes et aux électeurs allemands de cette époque. Eux s'étaient ralliés aux idées du moine Martin Luther, qui est né en 1483, vous voyez, à la fin du XVe siècle. Et ils avaient fait eux-mêmes tout un cheminement, donc ils adhéraient aux idées de Luther. Et au fond, qu'est-ce que c'est, j'allais presque dire, l'idée principale de Luther, de ce moine, de cet homme honnête, de cet homme pieux, qui voulait être un chrétien fidèle, fidèle à Dieu, fidèle en l'enseignement des Écritures de l'Évangile. La question de l'époque n'était pas seulement celle de Luther, c'était « vais-je être sauvé ? » Et comment vais-je être sauvé ? Pour Luther, c'était une question existentielle, angoissante. Il n'en dormait plus, il ne mangeait plus. Il était tourmenté car il croyait, lui, qu'il risquait de, je ne sais pas si on peut dire griller en enfer, mais en tout cas d'être parmi les damnés. Et il a eu une révélation, une conversion extraordinaire. Et il s'est dit, moi, je suis sauvé parce que Dieu le veut. Je suis sauvé par Dieu seul. Or, à l'époque, il y avait un courant très important qui disait, mais non, son salut, on peut l'acheter, on le gagne. Vous faites des bonnes actions, des bonnes œuvres. Vous pouvez même acheter, c'est ce qu'on appelait des indulgences. Vous pouvez même acheter avec un argent sonnant et trébuchant des jours en moins au purgatoire. Tout ça est bel et bon. Et Luther n'y croyait pas. Il n'est pas possible que Dieu soit mêlé à ces petits commerces. Et donc, il a eu, on peut dire, une révélation en disant, mais non, Dieu sauve par grâce, gratuitement. Et il a lu un passage de la Bible, une lettre de saint Paul qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et au fond, Luther a dit « Ben oui, moi je crois, j'ai la foi, et je crois en un Dieu qui me gracie, c'est-à-dire qui me sauve et qui est bon pour moi ». Et c'est ça la découverte centrale. Et si le salut est gratuit, découle plein de choses. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être sauvé ? Ça veut dire vivre, j'allais dire, en paix avec Dieu, dans une relation positive avec Dieu. Et Dieu, comment puis-je le connaître ? Eh bien, je peux le connaître en lisant la Bible, en lisant les Écritures, en me référant à Jésus, que les chrétiens appellent le Fils de Dieu. Et donc, de fil en aiguille, si je puis dire, Luther, qui était professeur d'Écriture sainte à Erfurt, en Allemagne, ce professeur a relu à nouveau frais l'Écriture. Et la deuxième donc idée forte de Luther, c'était de dire « Mais la Bible, elle est compréhensible car par quiconque sait lire. La Bible est ouverte à tous et à toutes. » Alors qu'à l'époque, c'était le clergé qui, naturellement, était l'interprète obligé. Voilà, donc on passe de la foi à la conviction qu'on a une relation bonne avec Dieu, que Dieu, on le découvre dans les pages de l'Écriture où on lit la présence de Jésus. Tout cela, comme dira plus tard Calvin, éclairé par le Saint-Esprit, eh bien, on retrouve la dynamique première du christianisme.
Oui, donc une nouvelle religion, un nouveau mouvement spirituel, religieux naissant, mais qui ne se voulait en rien schismatique par rapport au christianisme de l'époque.
Absolument, et d'ailleurs Luther, lui, était persuadé qu'il allait aider l'Église à se réformer. Et il a même écrit au pape, car il était persuadé, lui, qu'il serait entendu du pape. Il était persuadé que le pape n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, il a écrit une fameuse lettre qui s'intitulait ainsi « Du pape mal informé au pape mieux informé ». Luther disait non, si le pape voyait quelle était la pratique quotidienne du clergé et de beaucoup de membres du peuple de l'Église, il ne pourrait pas l'accepter. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Luther voulait même qu'on convoque un concile pour un peu remettre à plat, au fond, tous les fondements du christianisme. Ça n'a pas été possible. Il a même été excommunié, ce qui veut dire interdiction de participer au sacrement, ce que nous appelons nous les protestants de la scène et que les catholiques appellent l'Eucharistie. On pourra revenir sur ces mots. Donc Luther a été excommunié, il a brûlé la bulle, parce que c'est un terme technique qui venait simplement un envoi, un édit du pape, il a brûlé cette bulle et au fond, en 1520, on peut dire que ça a été le début de la réforme, mais Luther navré que cela n'ait pas pu prendre d'autres voies.
Claudette Marquet, vous venez donc de nous donner l'essence même, l'origine même du mot protestantisme. Lorsque l'on parle alors de protestant, plusieurs mots viennent à l'esprit. Il y a les mots luthérien, huguenot, réformé, parpaillot. Faites un peu du tri dans toutes ces appellations.
Oui, alors donc l'appellation première, ça a été luthérien, puisqu'on se référait aux idées de Luther. Ensuite, je vous ai dit protestants, en référence à la protestation des princes et des électeurs allemands. Et puis, lorsque ces idées sont arrivées en France, ailleurs dans l'Europe, mais en tout cas en France, alors il y a eu d'autres appellations, on les appelait les bibliens, parce qu'ils se référaient à la Bible, on les appelait les luthériens aussi, les évangéliques. Et puis, assez vite, au milieu du XVIe siècle, on les appelait les huguenots, les huguenots. Alors, l'origine du mot est assez imprécise. Certains disent que ça viendrait du mot allemand, je crois qu'il est Eidgenossen, confédérés. Les confédérés feront référence donc aux princes et aux évêques allemands qui auraient protesté contre l'imposition de la religion catholique. Rapidement, en France, on les a appelés les religionnaires et puis les membres de la religion prétendue réformée, RPR. La RPR, c'est d'ailleurs ainsi qu'on désigne les protestants, les calvinistes français, dans l'édit de Nantes en 1598, à la fin des guerres de religion. Quant au mot parpaillot, c'est manifestement un sobriquet. On ne sait pas non plus très bien d'où il vient, mais très tôt on les a appelés comme ça en France, vers le XVIe siècle également. Alors ça, ce sont des appellations un peu des sobriquets. Et puis alors après, il y a les divers courants du protestantisme, parce que par définition, mais on y reviendra peut-être plus tard, par définition, le protestant, c'est celui qui veut que toujours on soit appelé à se réformer, à ne pas s'installer dans la routine, à ne pas oublier au fond la fraîcheur, j'allais dire, de l'évangile. Et donc on peut dire qu'à chaque époque, de nouveaux réformateurs se sont dressés et on a appelé ces courants du nom du réformateur. Donc on parlera peut-être aussi d'un mot de l'anglicanisme, ça c'est encore différent. Mais vous avez les baptistes, vous avez les adventistes, vous avez les pentecôtistes, vous avez toute une foultitude, les méthodistes, une foultitude de courants qui sont nés de la protestation, généralement, d'un homme contre le durcissement de l'institution de l'époque.
Mais toutes ces différentes familles protestantes reconnaissent toutes le mot protestant. Ils se disent protestants.
Absolument, absolument. Et je dirais que ce qui les rassemble, c'est leur référence à l'écriture, à la Bible. C'est la Bible qui fait autorité et non pas un pape ou des dogmes ou des oukases. C'est leur lecture de la Bible et l'insistance sur la foi qui sauve et non pas les œuvres et sur la puissance étonnante de la grâce de Dieu qui se pose sur tout être humain.
Merci Claudette Marquet pour cette émission Baptême vous concernant à l'intérieur des programmes de présence protestante.
Merci beaucoup.
À bientôt.